Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Certains d'entre vous se plaignent régulièrement de l'emploi de mots anglais ou du franglais sur les antennes du service public. La médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, pourrait en témoigner. Je t'aime moi non plus, c'est ce qui pourrait résumer le rapport que nous entretenons avec la langue anglaise. Mais nous verrons ce matin que nos deux langues sont intimement liées, ont vécu une longue lune de miel. L'anglais a beaucoup emprunté au français et inversement. Comment expliquer qu'il existe autant de mots en commun dans nos deux langues? Comment expliquer que des mots qui sonnent anglais comme babyfoot, camping ou footing n'existent pas dans la langue de Dickens? Est-il possible d'imposer en français des mots anglais qui sont désormais ancrés dans notre langage courant? Élément de réponse ce matin. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'application France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
Bonjour Jean Pruvot.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de lexicologie et d'histoire de la langue française. Vous venez de publier chez Talendier un livre qui m'a passionné, La story de la langue française, ce que le français doit à l'anglais et vice-versa. Et vous êtes également chroniqueur sur France Bleu à 7h46, ça s'appelle Le mot de l'actu. Bonjour Jean-Loup Chifflet.
Bonjour Ali.
Vous êtes écrivain et éditeur et vous publiez chez First Les curiosités de la langue française pour les nuls avec Marie Deveau, c'est une mine d'informations. Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais, maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université et vous publiez chez Grasset « Je parle comme je suis, ce que nos mots disent de nous ». Alors, est-ce que vous comprenez le fait que nos auditeurs écrivent pour se plaindre de l'emploi fréquent de l'anglais ou du franglais sur nos antennes? Jean Pruvot, je rappelle que vous êtes vice-président de l'association Défense de la langue française.
Eh bien oui, je le comprends très bien parce que il y a des excès comme toujours. On va pas transformer football ou rugby, hein. Mais c'est vrai que si j'entends que finalement le farm coaching va développer mes soft skills et qu'on va faire un think tank corporate forcément dans l'open space, bon là je commence à être un peu agacé. Je prends comme réflexe ma grand-mère qui est saine, j'y dirais, de langue, qui accepte les mots anglais, mais il y a un moment donné où quand même c'est trop.
Julie Neveu.
Oui, en fait, bien sûr qu'on comprend, parce que c'est une pulsion qui est la même que l'amour inconsidéré et absolu qu'on a pour sa langue maternelle. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on naît tous avec une langue et que, évidemment, nos mères sont les plus belles, hein. Maman, jamais personne ne sera aussi beau, à moins que peut-être on fasse une crise d'adolescence. Donc, l'idée, c'est qu'on comprend et c'est très naturel, mais c'est vrai que c'est très important de comprendre qu'une langue n'est pas une nation, en fait. C'est pas un débat nationaliste. Une langue, c'est une culture, elle voyage, on se l'approprie, et si on se l'approprie, c'est par goût. Donc il faut arrêter peut-être de penser le débat comme des enfants qui se battent avec une épée en bois dans la cour de récréation, et plutôt penser que si je dis, par exemple, regardez le français, on dit people. Oh là là, c'est qui nos people aujourd'hui? Bon, eh bien, people en anglais, l'empreinte au français au début du 14e siècle, donc c'était peuple, hein. Sauf que nous, quand on le reprend au 20e, people, no people, ça veut pas du tout dire ce que dit people en anglais, qui est le peuple, donc anonyme, alors que chez nous, c'est les stars. Mmh. Donc vous voyez, il y a des influences réciproques, des voyages, et chacun prend un mot, l'adapte, se l'approprie parce qu'il en a envie. Donc il faut, je pense, arrêter de penser ça comme un débat identitaire.
Jean-Loup Chifflet.
Ouh là là, c'est du sérieux, là, je suis face à du lourd. En anglais, heavy. Hein. Non, je voulais dire que simplement, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec mon ami Pruvot, que j'ai connu enfant, presque. L'homme aux 10 000 dictionnaires. Vous savez qu'il a 10 000 dictionnaires. Et alors, simplement, parce que moi, je vais pas scier la branche sur laquelle je suis assise, parce qu'il se trouve qu'en 1980, j'ai fait un petit livre pour me moquer un peu du franglais, et je m'attendais à en faire 3000 exemplaires, et en 30 ans, j'en ai fait 300000 exemplaires. Ça s'appelle donc Sky My Husband. Ciel mon mari. Je croyais me faire fusiller par les professeurs d'anglais qui ont finalement eu la gentillesse de s'en servir comme méthode. Donc c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Jean, il y a des excès, mais moi, je rappelle simplement pourquoi j'avais fait ce livre, parce que j'avais été, à l'époque, en 94, je crois, en 85, juste avant de publier le bouquin, j'étais tombé sur un dictionnaire qui était publié par le gouvernement, et qui disait, à partir de dorénavant, on ne dira plus des mots comme, par exemple... pole position, il faudra dire position de pointe. Il faudra pas dire au fini, mais au finish. Il faudra plus dire jet de coin, mais corner, ou le contraire, pardon.
C'est plutôt le contraire, oui.
Voilà. Remodelage pour lifting, ça m'avait fait hurler de rire et je m'étais dit, on va jamais y arriver. Donc j'avais fait, en plus, un petit livre qui s'appelait Sky Mr. Allgood. Je me moquais du ministre de la Culture à l'époque.
Jacques Toubon.
Qui l'avait plutôt bien pris. Et simplement, ce que je veux dire, c'est que les mots qu'on a cherché à inventer pour remplacer effectivement l'anglais ne sont pas toujours très agréables à entendre. Voilà.
Rappelons-nous, Jean Pruvot, du réquisitoire d'Étiamble, hein, en 1964. Parlez-vous franglais?
Étiamble.
Étiamble, un réquisitoire contre l'envahisseur anglais.
Oui, alors bon, il y a beaucoup de mots qu'il avait critiqués, qui ont disparu. Parce que là, je suis d'accord avec Jean-Loup, bien entendu. Il ne s'agit pas de repousser tous les anglicismes. Il s'agit parfois peut-être d'en rire, et c'est ce que tu as fait à merveille. Et puis de se dire que peut-être, quand je lis quelque part qu'on est pour le souping, c'est drôle. Mmh. Bon, alors après, il ne faut pas exagérer, le tartiflating, peut-être pas. Et puis quelqu'un a rajouté, perso, je suis plutôt pour le racletting. Bon, donc, il y a là un jeu, disons, plaisant. Quand ça devient trop sérieux et qu'on ne comprend pas, quand même, quand je reçois le farm coaching pour améliorer mes soft skills, je dois avouer que je suis obligé d'aller chercher soft skills, et même si je connais le mot anglais, c'est pas très clair pour moi. Donc parfois, il y a une paresse aussi. Et donc, faut laisser faire la langue. Je suis d'accord avec la demoiselle qui a intervenu tout à l'heure. Il faut le laisser faire, et en même temps, bon, quand même, essayer peut-être dans le débat, de temps en temps, de donner des jolis mots.
Julie Neveu.
La demoiselle, alors en fait, c'est que oui, la demoiselle est d'accord avec les messieurs, parce qu'en fait, elle trouve que, en fait, oui, il faut laisser faire la langue. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a des enjeux politiques. Donc le Québec, par exemple, il réagit beaucoup plus vite que la France parce que les francophones là-bas se sentent plus menacés par la réalité. Ils sont entourés de tant d'anglophones, vous voyez, que pour eux, le français est vraiment un enjeu d'existence. Il faut réussir à exister, donc il faut résister. Et donc leur office, ils ont des organismes officiels qui proposent beaucoup plus vite des adaptations, des traductions de mots anglais. Donc par exemple spoiler, hein, spoiler un film, une série. Et ben là-bas ils ont dit très tôt divulgâcher.
C'est beau divulgâcher.
Alors divulgâcher, je sais que vous le dites, Ali, et j'ai remarqué qu'à France Inter, par exemple, les journalistes essaient de le dire, et je trouve ça très louable. Néanmoins, il se trouve que l'usage massif des Français va pour spoiler depuis un moment. Pareil, si vous voulez, pour Covid, c'est un très bon exemple aussi, parce qu'on s'est tous mis à dire le Covid. Au Québec, très vite, ils ont dit officiellement, disons, la Covid, sans doute pour s'approprier, alors qu'en anglais, il n'y avait pas de genre, faire un peu plus de différence dans la langue. Et nous, 3 mois plus tard, l'Académie réagit, alors qu'on dit tous le Covid depuis 3 mois, en disant, dites la Covid. Bon, et bah, du coup, tout le monde est divisé, on ne sait plus quoi dire. Parce qu'en fait, l'usage massif est quand même ce qui l'emporte, pour des raisons d'intuition forte et de communication. Donc, la difficulté, voilà, c'est quand on essaie de régir contre un usage qui est devenu global. Alors c'est vrai qu'il y a des excès jargonnants dans des milieux qui sont vraiment des postures, hein. Genre les types qui veulent avoir l'air j'ai réussi, ils vont faire des process et pas des processus. Donc ça peut énerver quand on se sent exclu. Maintenant quand tout le monde parle comme ça et qu'on communique et qu'on se comprend, je vois pas le problème. Et comme le disait en fait Jean Pruvot avec la définition de flash, l'anglais a ça peut-être en plus du français qu'il est très fort pour créer des mots onomatopéiques. Donc plus marrant, plus ludique et plus court, et notamment le mot buzz. Vous voyez, buzz et bah bzzz, le bourdonnement, il marche parce qu'il est un petit peu plus fun peut-être. Donc c'est des goûts, c'est des pratiques qui s'importent et qu'on adopte quand elles nous plaisent en fait.
Et puis l'anglais crée plus facilement des néologismes, hein, Jean Pruvot.
Oui, alors c'est là où la différence est nette entre une langue romane et une langue germanique. Langue romane qu'est le français, avec donc des prépositions, une analyse assez fine, et une langue germanique qui fait des compositions. Et par exemple, si je dis « the dining room » en anglais, c'est déjà la table de salle à manger. Et ils vont dire « dining table, et ce sera la table de la salle à manger pour dining room. Et donc on a là, bon, des facilités. Chaque langue a ses capacités, a ses qualités, et loin de moi l'idée de me moquer des excès, parce que je pense que les excès meurent tout seuls. Et donc il y a parfois des mots bon, qu'on peut peut-être trouver drôles, qu'on colle, il y aura d'autres
versions. Ah bah oui, j'allais vous le dire, Jean Pruvot, en ce moment on entend beaucoup cette phrase, je suis en call, pour dire je suis en conf-call, traduire je suis en conférence téléphonique.
Oui, parfois on est piégé. J'aimais beaucoup la mobylette. Bon, j'en avais une quand j'étais jeune. Je lisais constamment dans la presse, il y a un flash mob. Et je me disais, tiens, c'est quand même pas une mobylette. Jusqu'au jour où j'ai compris, pour revenir au mot flash, que c'était mob, la population. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui viennent de l'anglais, qui dans le fond sont français au départ, comme vient de dire Julie.
Jean-Louis Chifflet.
Oui, le monsieur, alors... non, le monsieur parle des néologismes. Moi, je suis passionné par... je suis qu'un grammairien buissonnier, comme un de vos confrères m'a dénommé. Moi, je trouve ça très bien, parce que je ne suis pas un spécialiste comme ça. Mais par exemple, là, on vient de parler des néologismes. Et je sais que le monsieur, il a écrit un livre passionnant sur les néologismes. Les néologismes, ça existe en France. Et je me souviens de cette phrase de Gay-Luc, qui se moquait gentil, parce qu'il y a les bons et les mauvais. Hein. Et Gay-Luc qui disait « Si nous voulons vraiment protectionner notre langabulaire, inacceptons l'invasionnement des néologismes. » Alors ça n'existe pas en anglais. Moi, je voudrais défendre un petit peu ma langue, parce que là, je suis attaqué par la demoiselle et par le monsieur. Finalement, ils ne parlent que d'anglais. Non, je plaisante. Mais les curiosités, enfin, c'est pas pour vendre ma salade, un peu. Que j'ai coécrit avec une autrice... ou une auteur, c'est très important, ça c'est un vrai débat sur la féminisation, Marie Deveau. Et simplement, ce que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup de choses en français qui sont quand même passionnantes, des exceptions. C'est une langue extrêmement difficile. C'est pour ça qu'elle a passionné un certain nombre d'auteurs qui sont venus, ce que j'appelle les convertis, des gens comme Cheng, Cioran, Kundera, Beckett et même Casanova, qui ont choisi la langue française comme langue d'écriture. Alors voilà, moi je suis passionné par l'anglais, c'est vrai que je m'en moque un peu parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne veux pas scier la branche sur laquelle je suis assis, qui m'a permis de m'acheter une douzaine de mobilettes, moi aussi, à l'époque.
Bleu.
Voilà, voilà. Donc je pense simplement que la langue anglaise n'est pas très compliquée, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas des exceptions à toutes les règles, l'exception, je dirais que pour la langue française, cette phrase va très bien, c'est les exceptions qui confirment les règles. On a beaucoup parlé de l'exception française. Voilà, je ne vais pas vendre ma salade, mais...
Julie Neveu.
Mais si c'est possible de revenir sur le terme call,
oui,
par exemple.
Oui, oui.
Pourquoi on s'est mis à dire j'ai un call depuis 6 mois? Ben, écoutez, c'est magique, regardez, c'est les conditions de travail qui ont changé avec le confinement. Du coup, on s'est tous retrouvés à devoir faire une distinction, genre les enfants, allez dans la chambre, maintenant j'ai un call, pour dire voilà, là il y a urgence, quoi. Il a fallu distinguer à l'intérieur de ce travail dans la maison, ce qui était vraiment important, ce qui relevait d'une nécessité d'ordre un peu de l'urgence. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à dire j'ai un call de plus en plus. Donc, il y a toujours, quand on emploie un mot, une nécessité, malgré tout, une différence qui peut-être est fine. Et moi aussi, j'adore la langue française, hein, bien sûr. Je ne veux pas scier votre branche de fonds de commerce. Je l'adore, il n'y a aucun problème avec ça. Je veux juste qu'on arrête de penser que d'utiliser des mots qui viennent peut-être d'ailleurs, sauf qu'en fait, c'est notre culture quand même. C'est juste ça que je veux dire. Finalement, l'anglais, je trouve que les anglophones sont un modèle parce qu'ils n'ont jamais pensé que leur langue était un modèle unilinguiste idéal. Ils ont toujours pensé leur société, leur langue comme le fait d'un multilinguisme, d'un multiculturalisme. Et ça, c'est un super exemple. Nous, on a tendance à croire, on s'est figé dans une sorte de mythologie de la langue française comme la plus belle, etc., avec des expressions comme le génie de la langue. Mais ça ne veut rien dire, le génie de la langue. Ça veut dire quoi? Comme le dit très bien Jean Pruvot, on a tous des spécificités, des capacités, et c'est vrai que l'anglais a une très grande souplesse syntaxique, donc ça nous apporte beaucoup. Et si on le prend, si on le garde, c'est que ça nous est utile. Et c'est vrai que quand il y a des excès, ils vont disparaître. Regardez, cool. Cool, c'était super cool. Pendant plus d'un demi-siècle, on a dit que c'était cool. Et là, les jeunes de 15, 25, 30 ans, ils disent qu'ils sont frais. T'es frais, à la fraîche et tout. Donc, on revient au français. Faut pas s'inquiéter, faut être cool ou à la fraîche.
Jean Pruvot, certains considèrent que nous subissons une colonisation de l'anglais. Mais c'est plutôt le français qui a longtemps colonisé la langue anglaise.
Alors oui, ça c'est une histoire assez longue, parce que dans le fond, on a eu le même socle, qui était le celte. qui a donné des mots comme la Tamise, c'est un mot celte. Et de l'autre côté, sont venus en France aussi les Gaulois, même famille, puis sont venus les Germains, puis sont venus ensuite, entre les deux, les Latins. Les Latins nous ont profondément marqués dans notre langue, davantage que les Anglais. Et puis sont venus les Vikings, dont un des descendants a gagné cette fameuse bataille d'Hastings, Guillaume le Conquérant, et embarqué énormément de mots, qui fait qu'aujourd'hui, dans la langue anglaise, on considère que sur 60 000 mots, il y a 60% à peu près de mots d'origine française, et non des moindres. Il y a vraiment tout un panel de mots formidables, aussi bien les mots repérables, sir, prince, duke, que des mots disparus comme very. Very, c'était verrai en fait, vraiment. Donc raconter tout cela, c'est merveilleux. Et il faudra aussi évoquer le musée de prononciation. Il faudra qu'on parle de la prononciation de l'anglais. Parce que ça, c'est une difficulté.
La langue anglaise s'est donc développée sur un solide socle germanique. Quelle est l'influence de la langue celte et également de la langue norroise, la langue des Vikings?
Alors, la langue germanique a été très importante pour les Anglais parce qu'elle leur a permis d'avoir des mots composés. Il se trouve qu'en allemand, dans les langues germaniques, on peut associer 3 ou 4 mots et on fait un seul mot, d'où le langage de la philosophie. En anglais, comme je le disais tout à l'heure, quand on a playroom, playground, ground floor, nous avons un mot beaucoup plus long pour le dire. Et donc ça a avantagé l'anglais du côté de la composition des mots. Maintenant, dans l'analyse précise, on sait aussi que parfois, et je pense que Julie ne me contredira pas, il y a un jargon pour aller vite. On parle du management. Mais les traducteurs sont en difficulté. Est-ce la gérance ou la gestion? Et souvent, on s'aperçoit que là où l'anglais a un mot générique, nous en avons plusieurs. Et c'est bon d'aller très vite avec un mot anglais. C'est peut-être meilleur après, quand on veut être précis, de prendre un mot qui a plus de sens, pourquoi pas anglais, mais en tout cas en français, on a pas mal de mots précis pour dire les choses.
Et sur l'influence viking sur la langue anglaise?
Alors l'influence viking sur la langue anglaise, elle se traduit déjà dans nos ordinateurs, parce que window, c'est un mot norrois qui veut dire l'œil du vent. Donc dans l'index que j'ai donné, j'essaie de repérer tous ces mots. Et c'est évidemment la mer qui va apporter énormément de mots aux Anglais. Bien entendu, il y a toute une série de mots clés aussi en français qui sont du côté de la crique, par exemple, la vague, le varech. On voit bien l'influence... donc norroise.
Et puis des mots anglais que nous utilisons dans notre vocabulaire sont d'origine viking. Je pense à casting, clip, loft, hit, happening, happy birthday.
Oui, c'est ça, gréer, duvet, des mots de ce type, éder évidemment, geyser, sont dus à l'influence norroise.
Et puis beaucoup de mots anglais ont connu des va-et-vient, des allers-retours entre l'Angleterre et le continent. Et je pense, par exemple, au mot budget, issu du mot bougette.
Voilà,
français.
C'est une histoire formidable qui montre effectivement le voyage des mots, puisque au départ, c'est un mot gaulois, bouge, on ne sait pas trop comment il se prononçait, mais qui voulait dire sac, qui devient bougette, petit sac, dans lequel on met souvent de l'argent. Ça passe par peut-être la malle qui était le bateau appelé ainsi parce qu'il y avait le coffre dans lequel on mettait le courrier. Ça passe en Angleterre, ça devient le budget. Et en 1743, le chancelier ouvre le budget pour les séances du Parlement. Et on a à ce moment-là « to open the budget ». Ça plaît au XVIIIe siècle, où on est très attiré par l'anglais. Ça nous revient avec cette prononciation « budget ». Et sous la Révolution, le mot est passé. Et alors aujourd'hui, hélas, on fait très souvent des budgets. On est obligé de faire. On est même budgétivore. On a créé, nous, un mot sur un mot anglais, en fait, avec une racine latine, quelque chose de très plaisant.
Un autre mot connu des va-et-vient, c'est le mot tunnel, qui provient du mot français tonnelle.
C'est ça. On a la tonnelle. On voit bien la forme d'une tonnelle. Ça passe en Angleterre. Ils ont une révolution industrielle d'avance. Et donc, beaucoup de mots de chemin de fer vont venir en France, à commencer par rail et d'autres mots de ce type, tender. Et ça nous revient déformé tunnel, comme tennis. Tennis, on le dit à chaque fois, tenets, on disait. Donc, au jeu de paume, ça passe en Angleterre. Ils répètent tennis lawn, donc sur le gazon. Et ça nous revient avec tennis.
Corner.
Corner, bon, qui est en corne. Alors, on a encore l'idée...
Ça vient du mot français, cornière.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, on a l'idée, bien entendu, qui est une racine assez répandue, parce que toutes ces langues, quand même, sont indo-européennes. Hein, c'est-à-dire que on a une base commune, c'est ce qui fait que nos langues sont quand même relativement proches parfois, beaucoup plus qu'on l'imagine.
Alors l'anglais est une langue aux origines germaniques, mais quelle est l'influence du latin? L'envahisseur romain n'est pas parvenu à imposer le latin
Je ne sais pas si c'était le Brexit avant l'heure, peut-être. Mais en tout cas, les insulaires, on ne peut pas encore parler d'Angleterre évidemment, mais les insulaires n'accueillent pas très bien ni César, ni Claude, ni Adrien. Adrien fait bien un mur, mais ça va pas plus loin, et dans le fond, laisse peu de traces. Quelques-unes, quand même, dans les noms propres, les noms de villes, parce que j'ai voulu aussi évoquer les noms des personnes et des villes. Et on a, par exemple, tous les mots en Chester, c'est le castrat romain. C'est-à-dire, quand vous avez Lancaster, Winchester, c'est la trace qu'on retrouve dans Castres, par exemple, en français, castrat étant le fort, la place forte.
Et on retrouve dans la langue anglaise un bon nombre de mots ou de formules en latin, hein. Museum, data, genius.
Oui, à commencer par, vous savez, annus mirabilis. On a aussi, bien sûr, AMPM, antediem, postediem. Donc ils le savent pas toujours d'ailleurs. Quand on va à l'étranger, quand vous et qu'il faut vivre, on vous donne un perdiem, mot anglais mais en fait latin.
Julie Neveu.
Non, je voulais rebondir sur la même famille de langues. C'est vrai qu'on a tendance à oublier quand on s'inscrit dans le cadre d'un duel, d'un duo entre l'anglais et le français, qu'en effet, c'est des langues très proches, qu'elles viennent donc de ces langues indo-européennes qu'on a reconstituées comme étant le berceau de la plupart des langues qu'on parle aujourd'hui. Hein. Et donc oui, on définit parfois, souvent, comme vient de le rappeler Jean Pruvot, le français comme une langue plutôt romane et l'anglais comme une langue plutôt germanique. Mais même cette distinction-là, elle est limite, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de lexique. Donc romain en français dans l'anglais, et il y a évidemment des mots allemands en français, et puis surtout même la syntaxe. En fait, on parle beaucoup de lexique là, mais il faut regarder aussi la syntaxe, et ça c'est super intéressant. En fait, la langue allemande, comme vous le savez peut-être Ali, eh bien le verbe est à la fin, c'est pour ça que c'est difficile. Donc on construit, c'est pour ça que c'est une grande capacité d'abstraction en allemand, parce que vous construisez une phrase, tous les arguments, sujet, objet, et puis à la toute fin, le verbe. Donc il faut attendre la fin de la phrase pour comprendre ce qui en fait était l'objet principal de la phrase. Eh bien, c'était en effet la syntaxe proto-germanique en anglais il y a très longtemps. Puis, en fait, par assimilation justement avec le français, les langues romanes, eh bien, la syntaxe est devenue sujet-verbe-objet en anglais aussi. Donc, le verbe est remonté au début, c'est devenu plus facile et moins abstrait. Mais c'est juste pour voilà, je voulais ajouter ça qu'il n'y a pas que le lexique, il y a aussi la grammaire et que c'est des langues très très proches et donc des langues quasiment de contact qui ont vécu en effet côte à côte. C'est vrai que l'anglais est la langue de communication internationale aujourd'hui, hein, donc on se retrouve à dire cluster au lieu de foyer de contamination. Oui, c'est vrai que c'est un fait. Ça, c'est-à-dire que c'est en anglais que les médecins communiquent leurs données, et puis peut-être aussi que foyer, on n'a pas envie trop de mélanger la maladie avec le foyer qui est l'image du bien-être à la maison.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Alexia Rivière et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Manon Cancé. À la technique ce matin, Antoine Cruchon et Pauline Laverdure. À la réalisation, Stéphanie Texier. Programmation musicale, Muriel Perret. Et je vous propose d'écouter Serge Gainsbourg.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Hélas, avril en vain de vous, à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson.
Serge Gainsbourg, la javanaise.
Call me Washington, C-O, 4-O-O-O, Argent, call me back, 5.
Grand bien vous fasse.
Yes, no, ok.
Sur France Inter.
10h32, ce que l'anglais doit à la langue française et inversement, c'est notre thème ce matin. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
C'est vrai que s'il y a un peuple sur Terre pour qui apprendre l'anglais devrait être facile, c'est le peuple français, le monde francophone, parce que les règles grammaticales anglaises sont très simples, ce sont les mêmes mots, en tout cas la moitié du vocabulaire est le même. Et c'est dommage d'ailleurs que cette approche ne soit pas utilisée mieux par l'éducation nationale ou le monde universitaire. Et il est vrai que lorsque vous dites immense or considerable or monumental au lieu de dire big, vous élevez considérablement votre niveau d'anglais.
L'avocat Anthony Lacoudre, l'auteur de l'incroyable histoire des mots français en anglais. C'était en 2017 sur France 24. Julie Neveu, je rappelle que vous êtes linguiste. Votre avis sur ce que vient de nous dire Anthony Lacoudre ?
Écoutez, je suis d'accord. Enfin, c'est-à-dire qu'on a tendance, on a un problème en France, c'est vrai, hein, quand même. On a un problème culturel. C'est pour ça que je bataille un peu à dire attention, cessons de penser que le français est une langue d'hégémonie absolue, idéale, et que c'est la plus belle, parce que ça nous perd, en fait. Ça nous empêche de nous ouvrir, de nous rendre compte à la fois qu'elle est déjà multilingue, vous voyez, qu'il y a déjà, qu'elle a emprunté beaucoup, et que l'anglais est très très proche. Donc si on part du postulat, si on prend conscience très tôt que c'est des langues proches, qu'il y a les mêmes mots qui voyagent, alors on s'adonne au plaisir de bien les prononcer, par exemple monumental, déjà l'anglais, pourquoi c'est drôle et c'est fun, parce qu'il y a beaucoup plus de variations toniques, c'est pour ça que les chansons en anglais ça passe mieux qu'en français, si vous traduisez des chansons magnifiques, ça a l'air complètement débile. Donc oui, je suis d'accord, rendons-nous compte que nos langues sont proches, ça nous aidera peut-être à ne pas se figer dans une sorte de se crisper sur une sorte de maîtrise illusoire d'une langue qui serait la plus belle, et après à aller en pinçant les lèvres essayer de prononcer des mots qui nous paraissent barbares. Vous savez, la barbarie, c'est le barbare, c'est chez les Grecs, c'est celui qui parle pas bien le grec, donc il est inférieur, et je crois qu'il faut lutter. Je crois vraiment qu'il y a une forme légère de xénophobie linguistique quand on dit voilà, au secours, on nous envahit, on nous menace. Non, eh bien, si on prend des mots, c'est personne nous a forcé avec la main sur la nuque à dire j'ai un call. Oui. On peut toujours dire j'ai un coup de téléphone.
Jean-Louis Chifflet, je rappelle que vous publiez les curiosités de la langue française pour les nuls.
Écoutez, je suis effondré, moi, parce que, franchement, je plaisante un petit peu, mais pas trop, parce que dire que la langue française, si j'ai bien compris Julie, n'est pas la plus belle, moi, pour moi, c'est quand même très dur à entendre, parce que, d'ailleurs, justement, elle parlait tout à l'heure du génie de la langue, la fameuse phrase de Voltaire, qui disait qu'elle s'expliquait surtout par ses particularités et par aussi le fait que c'était une très bonne chose qu'elle s'exporte, etc., qu'elle ait des apports extérieurs. Et puis il y a notre maître à tous, qui est Alain Rey, qui dit toujours « la seule chose qui compte, c'est l'usage, l'usage et l'usage ». Donc, évidemment, je pense qu'on utilise un petit peu trop les mots anglais, mais je pense que, moi, ça fait partie de... Je ne vais pas aussi loin que ce que stigmatise M. Pruvost, mais je pense que ça fait partie du quotidien, etc. Et puis, juste une chose, je voudrais rajouter, moi, à l'époque, et ça, je voudrais savoir ce que j'en pense, c'est qu'à l'époque, moi, je me suis planté. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Y a-t-il une courgette dans l'attaché-caisse ?» J'ai ramassé un bide monumental parce que j'avais calculé, j'avais compté à peu près 1000 mots français qui sont vraiment utilisés en français comme courgette, vis-à-vis, etc. etc., et qui sont utilisés en français dans la langue anglaise. Tu es d'accord là-dessus ?
Jean Pruvot, je rappelle que vous êtes lexicographe.
Oui. Donc ce ne sont pas 1000 mots, puisque...
Vis-à-vis,
par exemple,
courgette.
Oui, bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est que quand Guillaume le Conquérant... D'abord,
qu'est-ce qu'il appelé... devient, lui, pardon.
D'abord, c'était Guillaume le Bâtard, parce que c'était donc un duc de Normandie, fils de Robert le Magnifique, et d'Arlette, qui était jeune femme, fille d'un possier et d'un tanneur. Et donc, ce Guillaume, appelé en France le Bâtard, à la bataille d'Hastings, parce qu'on lui avait promis l'Angleterre...
En 1066.
Voilà, on est en 1066, s'installe et gagne donc cette bataille, je dirais, haut la main et la flèche dans l'œil d'Harold. Hélas, mais tant mieux peut-être pour la langue française, qui s'est donc installée avec mais, des milliers de mots. Ce sont plus de 20 000 personnes qui sont parties alors donc en Angleterre.
Et mais Jean Pruvot, si Guillaume, duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, n'avait pas remporté la bataille d'Hastings face au dernier roi anglo-saxon d'Angleterre, Harold Godwinson, des dizaines de milliers de mots français n'auraient pas pris souche dans le vocabulaire français ?
Alors, on ne sait pas ce que serait devenu l'histoire ensuite, mais le fait que Guillaume le Conquérant ait pu devenir roi de France, qu'il ait embarqué avec lui plus de 20 000 personnes, qu'il s'agisse de l'Église, qu'il s'agisse des artisans, des guerriers, etc., a fait que les mariages ont été intenses entre Français et Anglais. Ça va se poursuivre jusqu'à Jeanne d'Arc, d'ailleurs, du côté de la monarchie, puisque il y aura des mariages avec Aliénor d'Aquitaine, Marguerite de France, Isabelle d'Angoulême, Aliénor, Marguerite de France aussi de nouveau, enfin bref, toute une série de reines qui sont françaises et à la cour, on parle française. Mmh. Quelle est la formule la plus connue, hein, lorsque le roi est à Calais et qu'il dit, au moment où la jarretière de sa maîtresse de Salisbury tombe au nid, soit qui mal y pense, et il crée le fameux ordre de la jarretière. Donc c'est la preuve le français était installé.
Et rappelons que la devise de la monarchie anglaise est « Dieu est mon droit ». Julie Neveu.
Oui, est-ce que je peux réagir à ce qu'a dit Jean-Loup Chiffret ?
Bien sûr, vous avez le droit de revenir
effondré.
En arrière.
D'accord. Non, parce que moi aussi j'encourage l'usage et moi aussi je trouve le français très beau. Donc en fait, je voudrais juste dire que le français, il est parlé donc pas que par les Français de France, hein, toute la francophonie, qu'il y a 300 millions dernier dénombrement de 2018 de francophones dans le monde. C'est une langue qui est massivement parlée. C'est très bien, on peut s'en réjouir. C'est un chiffre qui est en expansion. Donc je pense qu'il faut arrêter de se méfier. On dirait qu'il y a une sorte de crise d'autorité, de méfiance. On a peur que la langue française ne soit plus parlée, mais elle est encore parlée. Et donc Monsieur Chifflet, pourquoi est-ce que vous ne voulez
appelez-moi Whistle. John Wolfe Whistle.
Ok, Mr. Whistle, pourquoi donc ne pouvez-vous penser que peut-être chaque enfant préfère sa mère, que vous trouvez le français la plus belle, que l'allemand a le droit de trouver que sa langue maternelle est la plus belle, que l'anglophone a le droit de trouver que l'anglais est la plus belle des langues, et que ceci doit être pensé de façon relative et non pas absolue. C'est impossible de dire « Enfin, le français est la plus belle des langues ». Et d'ailleurs, Voltaire, quand il a dit que c'était le génie de la langue, etc., il travaillait donc avec Frédéric II de Prusse, ils étaient tous les deux copains, et le mythe d'une langue universelle qui était celle que tout le monde parlait est né de ce moment-là. Les experts du 18e disent, attendez, c'était pas tout à fait le cas. En fait, le français n'est jamais devenu une langue universelle. C'était évidemment une idée un peu d'exportation, vous avez utilisé le terme exporter tout à l'heure, de penser que c'est un pouvoir politique qu'on avait grâce au français s'il s'étendait. Mais déjà, à l'époque, c'était beaucoup plus plurilingue qu'on ne le pense. Et donc, est-ce que vous... pourquoi ça vous dérange de penser que les autres peuvent penser aussi que leur langue est la plus belle ?
Jean-Louis Chiffret.
C'est vrai que c'est peut-être mon côté franchement chouillard, mais je travaille depuis des mois sur ce livre avec Marie Devaux. C'est mon 60e bouquin. Tout le monde me dit que j'écris toujours les mêmes livres et qu'il n'y a que le titre qui change. Ils ont parfaitement raison. Tous ceux et celles qui disent ça et j'ai les noms ont parfaitement raison. Je veux dire, celui-ci, ça a été un livre très très important et je me suis plongé, nous sommes plongés dans les curiosités de la langue française et ça a été un festival. Alors c'est vrai que je suis peut-être très subjectif, mais en découvrant les secrets de la langue française, moi j'aime beaucoup l'anglais, j'en ai fait un peu mon fonds de commerce, mais un fonds de commerce amusant. Je vous citerai une anecdote si j'ai le temps tout à l'heure. Ce que je veux dire simplement, c'est que cette langue, ces curiosités, il y a des centaines de règles complètement folles. J'ai fait des conférences aux États-Unis dans des alliances françaises. J'admire beaucoup tous ces gens qui essayent d'apprendre cette langue, et je pense simplement que l'anglais n'est pas aussi riche. Voilà ce que je voulais dire.
Jean Pruvot.
Oui, alors moi, comme souvent, j'ai un avis qui va des deux côtés.
Bon, mais t'étais chez les Jésuites.
Voilà, c'est normand peut-être. Mais en fait, déjà, je pense que les deux langues sont complémentaires et sont différentes. Il y a déjà un problème d'accent. On dit souvent que le plus dur pour nous, c'est de reconnaître les mots et de bien les prononcer. Et là, ce qui est merveilleux, c'est de se dire que l'anglais est un musée de notre prononciation. Par exemple, fleur, F-L-E-U-R, c'est comme ça qu'on disait. Ça donne flower. Toile, T-O-I-L-E, pourquoi T-O-I ? C'était towel. Et on le retrouve en anglais. Donc on a comme ça déjà des prononciations un peu particulières. Inversement d'ailleurs, nos mots français, la petite cotte, qui était un jupon, bah, passe en Angleterre, et quel charme, le petit coat, c'est tout simplement la petite cote.
Quelle est la proportion, Jean Pruvot, de mots d'origine française en anglais ? Les paramètres sont différents selon les chercheurs. Oui. Par exemple, selon la célèbre linguiste Henriette Walter, environ 2/3 du vocabulaire anglais a des origines françaises.
Alors, mon ami, parce que vraiment je l'apprécie énormément, Henriette Walter, à qui je rends hommage d'ailleurs dans l'ouvrage, se fonde effectivement, à juste titre, sur la taille d'un petit Larousse ou d'un petit Robert, et de l'équivalent en anglais. C'est-à-dire sur 60 000 mots. Voilà, sur 60 000 mots, il y a à peu près 2/3. Si on prend que 30 000 mots, à ce moment-là, ça baisse, c'est 1/3. Parce que c'est vraiment les 30 000 mots les plus courants. S'il faut dire, c'est que les mots français qui sont en anglais sont plus valorisants. C'était un très bon français. Donc, si vous voulez, quand vous dites de quelqu'un intelligent, quand vous dites exercise, c'est mieux que dream ou clever. Et on l'a tous vécu. On part en Angleterre, on ne trouve pas le mot. On se dit, mais comment je vais le dire? Alors, on le transforme, on y met un peu d'accent anglais. Puis on va dire psychologie. Alors, c'est pas la bonne prononciation, psychologie, mais ça fait rien. Et là, d'un seul coup, ils se mettent à parler très vite parce qu'ils disent, ah, mais il a un anglais très châtié, donc on peut y aller. Donc il y a cette différence. Et sur 100 000 mots, plus exactement sur 300 000 mots, quelqu'un récemment à la Sorbonne a montré qu'il y en avait 80% d'origine française et latine. C'est normal, on est du côté des mots techniques qui passent par le latin et aussi par le français.
Et Shakespeare, qui était bilingue, a incorporé de nombreux mots français dans ses pièces. Hein. Monumental, pédant, frugal, obscène, nous rappelle Anthony Lacoudre dans son livre L'incroyable histoire des mots français en anglais. Julie Neveu.
Oui, je voulais réagir à l'idée d'une langue plus riche. En fait, riche aussi, c'est un petit peu subjectif encore. C'est-à-dire qu'en fait, chaque langue, moi, ce que j'essaie de voir dans mon livre, je parle comme je suis là, c'est que chaque langue, en fait, construit une représentation d'un monde. Vous voyez, en fait, il n'y a pas un rapport direct. La langue ne dit pas le monde directement. Elle dit pas la réalité, évidemment. Elle n'est pas objective. Aucune langue, aucune construction qui représente quoi que ce soit n'est objective. Donc, en fait, la langue donne accès à une façon de se représenter le monde. Et le français le fait d'une certaine façon. Et apparemment, cette façon convient bien donc à Monsieur Chifflet. L'anglais le fait d'une autre façon. Chaque langue, l'arabe, le fait d'une autre façon. Et à chaque fois qu'on emprunte un mot, c'est qu'on a envie de représenter dans notre langue la façon que la langue d'origine avait de représenter quelque chose. Donc on a de l'arabe, le café, le jupon, l'élixir, l'alcool, tous ces mots-là. Et puis on les emprunte, et la façon dont on les utilise, qui n'est pas celle dont les arabes l'utilisaient, montre qu'on a envie de s'approprier cette façon de se représenter le monde. Voilà. Donc je voudrais dire que c'est pas en soi qu'une langue est plus riche ou plus intéressante. Chacune module un certain rapport à la réalité, et c'est ça qui est fascinant.
Jean Pruvot, vous écrivez dans votre livre que l'anglais constitue un musée de l'ancien français. Mais à partir de quel moment l'anglais et le français prennent-ils leur envol de façon séparée ? Est-ce que, pour le dire vite, c'est la faute à Jeanne d'Arc et à la guerre de Cent Ans ?
Oui, alors Jeanne d'Arc est peut-être le produit d'une saturation politique, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que Jeanne d'Arc, en voulant bouter les Anglais hors de France, indirectement, il y a eu un nationalisme des deux côtés qui s'est développé, et la langue française a été du coup boutée aussi hors de l'Angleterre. Mais peut-être plus précisément, c'est quand l'Angleterre a pris une avance politique. et qu'elle est devenue une monarchie de régime parlementaire, admirée finalement par les philosophes du XVIIIe siècle. Tous sont allés en Angleterre, tous parlaient l'anglais. On l'oublie complètement, mais Diderot, puisque j'essaye aussi d'évoquer la littérature dans cette aventure, Diderot était d'abord, avant d'être le grand philosophe, le traducteur de dictionnaires anglais, notamment de médecine. Et donc, on a là une admiration des philosophes pour les mots. Budget arrive, vote arrive, même si c'est un mot latin, mais la notion moderne de vote passe par l'Angleterre.
Jury. Puis,
au 19e siècle.
Jury aussi.
Jury, bien sûr, comité. Et puis au 19e siècle, c'est les révolutions industrielles.
Jean-Louis Chifflet.
Oui, simplement, je voudrais te demander si le Brexit ne va pas changer les choses. Parce que d'ailleurs, je vends ma salade encore, mais je viens de sortir un petit livre qui s'appelle Sky My Brexit, Your Brexit, pardon, où je me moque de Beaujolais le clown, justement, parce que je pense que quand même, on va peut-être être un petit peu bridé par cet enthousiasme vers l'anglais. Et dans Sky My Your Brexit, cette 1,95€ dans toutes les bonnes pharmacies, je te le conseille.
Très bien.
Jean Prouvot, très vite.
Oui, il faut dire que la langue obéit aussi à une politique linguistique. En France, il y a toujours une politique linguistique. L'Académie française a fait un excellent travail. Il y a DGLF qui organise aussi des comités de terminologie, comme le fait le Québec.
La DGLF.
Donc quand Clémenceau, la délégation générale française, comme Clémenceau qui a accepté en 1919 parce qu'il était bilingue complètement, que la langue diplomatique soit aussi l'anglais.
N'hésitez pas à poser vos questions au 01 45 24 7000. Je vous propose d'écouter Kurt Weill.
The day I walk down the street I used to wander, yeah, I shook my hand and made myself a bet that it was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? My shoes and a hum from the rearview mirror, bronzed admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky I can one man get. Down the street I used to wander, yeah, scratched my head and lit my cigarette. Well, there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get?
Kurt Weill interprétait Oh Lucky.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Numéro 5. Blanket, qui veut dire couverture. Avant, nos ancêtres du XIIIe siècle utilisaient le terme blanchet pour désigner un mot de drap blanc utilisé en pharmacie. Depuis, les Américains ont enlevé le CH et l'ont remplacé par K, et le drap blanc est devenu une couverture, et tout le monde a oublié que blanket, c'était un mot à nous. Numéro 4. Canvas, qui veut dire toile. Qui vient du picard canevage, qui a ensuite donné chaneva en ancien français, puis caneva en français moderne. Numéro 3. foreign, qui veut dire étranger. Sauf que toi, dans ta copie d'anglais, tu mets stranger. Sauf que ça, ça veut dire chelou. Et après, tu prends un bon gros 4. Foreign, ça vient du français forain, et avant ça, du latin foris. Et ça désigne tout ce qui est extérieur, notamment à la ville, d'où la notion d'étranger. Numéro 2. Proud, qui veut dire fier. Figurez-vous, les amis, qu'au XIe siècle, preux signifiait vaillant, fier. Puis on l'a changé pour devenir preux. Preux, on connaît, dans les vieux films, ils font « En garde, preux chevalier, tu vas goûter de mon épée, espèce de vieux tapin !» Mais on a quand même gardé des traces de preux en France, comme dans Prud'homme, par exemple. Numéro 1, apron. Alors, apron, ça veut dire tablier, mais ça vient du français napperon, donc littéralement petite nappe. Donc, un petit bout de dentelle qui sert à rien et qui est joli, qu'on trouve sur les tables un peu classe. Alors, eux, ils ont pris le mot napperon, napperon, mais au bout d'un moment, les teubés, ils ont cru que c'était un apron, et c'est resté. Ah, et ils ont aussi changé le sens du mot, parce qu'un tablier, c'est pas un napperon. Voilà, on peut pas leur demander énormément aux Anglais, ils ne comprennent rien.
Extrait d'une vidéo du site Topito, ce que l'anglais doit à la langue française et inversement. C'est notre thème ce matin. Domi nous demande, est-ce que les Anglais utilisent des mots français dans leur conversation? Jean Pruvot, vous avez publié la story de la langue française.
Oui, ils en utilisent beaucoup et surtout lorsqu'il s'agit de quand même peut-être une de nos spécialités. Hein. Moi, je vais être un peu cocorico du côté de la gastronomie, qu'on a quand même une grande chance. Alors même s'il y a des mots qui, du côté du Nord, le pudding, sont des mots alors qu'on a parfois assimilé à boudin qui ont été transformés en pudding. Mais bon, les derniers étymologistes disent que non, c'est vraiment un mot d'origine germanique. Donc,
est-ce que dans le langage courant, en Angleterre ou aux États-Unis, on utilise les mots rendez-vous,
oui,
fiancé?
Vous avez rendez-vous près du garage. Mm-hmm. Donc, si vous voulez, effectivement, il y en a bon nombre. Mais beaucoup dans la cuisine.
Julie Neveu, linguiste.
Et bien sûr, il y en a, et il y en a même des assez récents, mais par rapport à ce que vous disiez de rendez-vous, c'est drôle parce qu'ils vont dire I've got a rendez-vous quand c'est vraiment romantique, justement, ou alors I've got a date qui arrive chez nous maintenant, au sens planifié. Donc ce qui est super intéressant, c'est que date vient aussi du français, date. Donc en fait, tout ça, c'est surtout la perception du caractère plus ou moins étranger de la langue, parce qu'en fait, bien sûr qu'ils ont plein de mots qui viennent du français, comme very, it's very beautiful, very. Ça vient de vrai en français. Donc parmi les mots qu'ils utilisent le plus, il y a du français, mais ils le savent pas. Donc c'est comme nous, c'est-à-dire que la moitié des mots qu'ils utilisent, c'est du français. Et puis quand ils en sont conscients, ils sont ravis et ils sont un petit peu moins de ce côté-là, un peu moins snob que nous, je pense.
Aujourd'hui, dans notre pays, Julie Neveu, on assiste à une invasion d'anglicisme et c'est lié à notre vie numérique et à la technologie. Je pense aux mots follower, selfie, liker, vous l'avez dit tout à l'heure, spoiler, bugger, qui sont entrés dans le langage courant.
Oui, c'est sûr qu'en fait, quand arrive une pratique, arrivent les mots qui désignent et qui sont insérés dans cette pratique. Donc évidemment, avec tous les réseaux sociaux, arrivent les mots qui sont les fonctionnalités de ces réseaux sociaux. Donc like de Facebook qu'on s'est mis à utiliser, follow et tout ce que vous avez dit. Mais c'est inévitable, si vous voulez. Et ce que je voudrais bien souligner, c'est que liker, ça veut pas dire aimer. Donc il faut pas trop s'inquiéter de ça, de ces nouveaux mots qui sont des ajouts, mais qui ne sont pas des soustractions, qui vont pas nous voler aimer. On va garder aimer pour dire j'aime bien. Mais quand on like, on sait qu'on a juste cliqué sur notre ordinateur parce qu'il y avait peut-être un profil qui nous plaisait. Ça n'a pas vocation à remplacer aimer. Je pense pas.
Bonjour Nicole, bienvenue.
Bonjour à tout le monde.
Bienvenue, professeur d'anglais.
Je vous appelle parce que je profite de cette émission pour manifester mon petit mécontentement, on va dire. J'étais professeur d'anglais et j'ai un goût très très prononcé pour toutes les langues, quelles qu'elles soient, les langues vivantes. Et je suis très attachée à la conservation de leur richesse. Donc je vais vous donner deux petits exemples. Par exemple, le premier, c'est « je suis gênée par le changement de sens du mot « définitivement » en français ». Auparavant, je crois qu'il signifiait « pour longtemps » ou « pour toujours ». Et maintenant, en fait, c'est la traduction littérale du mot « definitely » qui veut dire « absolument, vraiment ». Donc, ça n'est pas très important. D'autre part, la disparition de certains termes me gêne davantage encore. Je vous donne un exemple particulier. Auparavant, en français, dans la langue française, on parlait de « visite officielle ». Maintenant, on parle de « visite d'État ». C'est-à-dire « state visit » en anglais. Pourquoi avoir abandonné le terme « officiel » qui me semble convenir. Et puis j'ajouterai une dernière remarque. En ce qui concerne la prononciation des termes anglais, même sur France Inter. Bon, je suis d'accord pour qu'on garde certains termes anglais. Quand j'entends low cost, ça me fait bondir, puisqu'il s'agit bien sûr de prix de bas coût. Est-ce qu'on ne confondrait pas avec le mot holocauste par hasard? Donc voilà ce qui me gêne et je souhaitais vous en faire part.
Merci Nicole pour votre témoignage. Julie Neveu, ce qui peut être agaçant, et on l'entend dans le témoignage de Nicole, ce sont les anglicismes inconscients.
En fait, Nicole, elle est professeure d'anglais et je la comprends bien. Je suis professeure de linguistique anglaise, moi, en fait. Hein. Ouais. Donc, oui, elle aimerait bien qu'on garde la spécificité de chaque langue. Ouais. Mais c'est l'inverse de ce qui se passe dans la vie de tous les jours, puisque quand on s'approprie une langue, quand on le dit de plus en plus, quand on utilise un mot de plus en plus, on se l'approprie. Moi, je trouve ça parfait qu'on prononce très mal en français, parce que sinon, on se serait pas approprié le mot. Vous voyez? Donc, en fait, je pense que l'idéal d'une langue pure, donc, était un idéal et il doit rester tel quel. C'est-à-dire, dans la salle de classe, on peut essayer de faire tendre ensemble les élèves vers une bonne prononciation de l'anglais comme il se doit, écouter des chansons comme celles que vous avez passées, voilà. Et puis à côté, quand on pratique, qu'on communique, qu'on veut se faire comprendre par des gens qui n'ont peut-être pas l'accent parfait, dire comme ça. Et si définitivement est devenu un synonyme d'absolument, que c'est en effet du coup un changement de sens, eh bien l'usage a entériné cela. Et moi ça ne me fait pas regretter quoi que ce soit, mais c'est normal qu'il y ait une nostalgie, puisque dès qu'il y a perte de maîtrise ou d'illusion de maîtrise, il y a regret. C'est tout à fait naturel, mais je pense qu'il faut essayer de se rendre compte que c'est pas grave et que oui, la langue évolue.
Jean Pruvot, un mot de conclusion?
Oui, bah je crois qu'on peut pas écarter non plus un peu de snobisme, hein, quand on prend le lead pour prendre les commandes, pour donner le go et être bankable. Bon, je suis un peu embêté parce que ma grand-mère ne comprend pas, j'aimerais bien pouvoir lui traduire. Et je crois que d'un côté, il faut pas repousser les mots anglais. Riding coat nous a donné redingote, c'est très bien. Mais en même temps, bon, garder un peu de mesure.
Jean-Louis Chifflet?
Juste un mot, je voudrais en profiter pour dire que je comprends pas qu'on ne rende pas hommage aux traducteurs. Oui. Moi, je pense qu'il devrait exister un Goncourt des traducteurs.
Absolument.
Je suis fasciné par des bouquins formidables, très bien traduits, et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui.
Traduire l'anglais en français, c'est un tiers de mots de plus. Quand je chante une chanson country, je suis obligé d'ajouter eh bien, un tiers de plus de paroles, et ça passe pas.
Merci à tous, et merci Jean Pruvot. La story de la langue française vient de sortir chez Taillandier. Merci Jean-Louis Chifflet. Est-ce que je cite votre livre? Vous l'avez suffisamment cité ce matin. Les curiosités de la langue française pour les nuls, c'est publié chez First. Merci Julie Neveu. Je parle comme je suis. Ce que nos mots disent de nous est publié chez Grasset. J'espère que vous reviendrez pour d'autres émissions consacrées à la langue française. Demain, on s'intéresse à la cuisine anti-gaspi. Racontez-nous vos astuces et vos recettes pour ne pas gaspiller la nourriture dès maintenant sur l'application France Inter et sur la page Facebook de Grand-Mère Vous Fasse.